Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais oui, mais Capture Mag, les gens. Mais Capture Mag et Hebdo, bon sang. Si vous pouvez pas comprendre ça, je sais pas comment vous l'expliquer.
T'es vénère, hein? Qu'est-ce qui s'est passé là?
J'ai dit Capture Mag, quoi. J'ai pas eu ma dose de films de Ron Howard et je suis un peu
en manque. Ça,
attends, Yannick
ça,
n'est pas là et ça y est, on se met à gueuler dans les micros.
Ouais, c'est ça, on va les faire saturer.
Mais ça, c'est ces nouveaux micros, faut le dire aux gens.
Ah oui,
ça,
oui, mais ils sont un peu compliqués à utiliser, mais au bout du compte.
C'est vrai qu'ils sont un peu space, tes micros.
Ils sont de l'espace, c'est les micros de l'espace. Nous sommes au milieu du mois de juin, bientôt l'été, nous sommes le 16. Et
C'est déjà l'été là, on le sent.
C'est déjà l'été, hein. Et vous inquiétez pas, on va bientôt partir en vacances et vous foutre la paix.
Non.
Mais en attendant, il y a encore du Capture Mag. Et ce soir, on va parler de It Comes at Night de Trey Edward Schultz qui sort en salle. On va parler de Baywatch, Alerte à Malibu et de ses gros seins qui sortent en salle le 21 juin.
Mais attends, les gros seins de qui?
Ah bah de
Dwayne The Rock Johnson.
Bah oui, ouais. Oui, bien sûr.
Et on va arriver à soulever avec ça.
avec des poids dessus pendus au bout des tétons. Et on arrive à en parler aussi de John Wick 2 et je me demande bien pourquoi de Chad Stahelski. Moi, j'ai pas trop aimé le premier, mais on va voir si le 2 rattrape l'affaire. Voilà, c'est le sommaire de ce soir et il est très très bien ce sommaire. Et donc écoutez, ce soir on est ensemble, mais en fait, on est ensemble virtuellement, car ce soir, je suis à l'Escurial Panorama, en train de regarder...
Ah, c'est ça.
Et oui.
C'est ton hologramme.
C'est ça, c'est mon hologramme. Non, vous avez encore...
comme la méluche, toi. T'es ici et t'es là-bas,
quoi. Vous avez encore 10 minutes pour foncer à l'Escurial Panorama pour voir la soirée Starfix avec l'équipe de Starfix et voir Rambo et Vildad. Non, il n'y a plus de place, hein, c'est complet. Désolé, les amis. La prochaine. Prochaine soirée Starfix. Non, en attendant, vous pouvez prendre vos places pour la soirée requin du 1er juin, si vous voulez revoir Les Dents de la Mer. Sur grand écran, DCP magnifique.
1er juillet,
pardon. Ouais. Oh là là, c'est
les 16 juin, là.
Ouais, c'est ça.
C'est les hologrammes, là. Ouais. Les néons.
Je sais plus où j'en suis. Non, 1er juillet, c'est Les Dents de la Mer au Max Linder, c'est Open Waters et The Shallows. Et tout ça, c'est sur grand écran, en DCP, belle copie, magnifique. Quoique Open Waters, la copie n'est pas extraordinaire, puisque ça a été tourné dans les conditions d'un documentaire, donc avec beaucoup de sources vidéo, pas forcément de très haute qualité. C'est assez marrant de voir le mix des formats. Voilà.
Surtout maintenant, je pense.
Surtout maintenant.
Déjà, à l'époque,
comment ça s'appelle
Blair
Witch Project. Merci Julien. Heureusement que tu es là. Bon, allez, on démarre.
Mais de rien, David.
On démarre sur les chapeaux de roue avec It Comes at Night. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient? C'est Julien qui vient la nuit me parler de It Comes at Night.
Ouais.
C'est quoi ce film?
Bah écoute, c'est un film où t'es pas là pour rigoler, mon gars. Hein.
Ah ouais.
si t'es venu pour la gaudriole et voir des monstres et des machins et des explosions et...
Non.
Non.
Non, 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 c'est non, pas non, le sujet.
On est là pour réfléchir posément et gravement sur le sort de l'humanité qui, ma foi, mon brave homme Patrick.
C'est quand même un nom de film de genre, quoi.
Non,
un film de genre, quoi.
C'est un film de genre.
Et c'est étonnant qu'ils aient pas traduit, d'ailleurs, en français.
C'est même d'ailleurs un sous-genre assez clairement identifié, qui est le film de pandémie. Post-apo, c'est-à-dire que là, on arrive après que la pandémie ait lieu. Et on saura d'ailleurs pas. Alors, ce qui intéresse le réalisateur, c'est pas du tout la pandémie en elle-même. C'est pas de voir des hordes de gens contaminés, ouais. Des rues entières de mégalopoles tomber en ruine et en décrépitude.
Bah, c'est dommage, parce que moi j'aime bien ça.
Oui, alors non. Là, tu étais dans les bois. Et tu es avec très peu de personnages, en tout il y a 6 personnages, alors 7 si tu pousses un peu, 8 si tu inclus le chien, comme tu es un fan de Roland Emmerich, je pense qu'il faut inclure le chien.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Ouais, mais le chien
donc alors mettons le chien.
Il survit.
Alors je vais pas vous spoiler le film, je vais juste vous le pitcher. Donc ça, c'est une famille, un trio initial conduit par Joel Edgerton, qui est pas mal. Pour une fois, moi je trouve que c'est un acteur très très inégal, Joel Edgerton, mais là il est plutôt correct. Il a une femme, il a un fils adolescent. Et ça, le film s'ouvre en gros sur Joel Edgerton et son épouse qui se retrouvent contraints à sacrifier un autre membre de la famille qui, pour le coup, ne va pas rester bien longtemps donc dans le film, qui est un grand-père atteint d'une espèce de maladie. Alors, tu sauras jamais exactement quelle est cette maladie, quelle est cette épidémie. Il y a des signes en fait dans le film qui te font dire que ce serait plutôt la peste ou la peste noire, mais il y a rien de concret. On ne développe pas du tout là-dessus. Et donc ils se retrouvent à sacrifier ce grand-père. On comprend assez rapidement qu'ils sont isolés dans les bois, qu'ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui leur permet de survivre. Et un jour débarque dans leur maison un autre personnage qui est joué par Christopher Abbott, qui jouait dans, moi je l'avais repéré dans Girls surtout, je crois, et qui lui serait un père de famille et qui propose, chemin faisant, de ramener en fait son épouse et son fils à l'intérieur de cette autre famille, et donc ils vont essayer de recomposer une mini communauté comme ça. Ouais.
Bon. De survivants.
En fait, le sujet, et c'est souvent le sujet de ces films de pandémie post-apocalyptique, c'est qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être humain, jusqu'à quel point l'instinct de survie doit-il être plus fort que ce qui nous définit en tant qu'humain, à partir de quel moment tu perds justement l'humanité ou la raison de vivre et de survivre, ce qui sont des sujets tout à fait louables, et d'autant plus louables dans It Comes at Night que c'est plutôt bien écrit, c'est pas très beau, il y a pas d'ambition esthétique en fait dans le film, mais c'est relativement mis en scène. Il y a même de temps en temps des idées. Le film, il y a quelques plans séquences de discussion entre les personnages où, par exemple, le réalisateur va t'isoler chaque personnage et puis quand ils arrivent à un accord, il va te les rassembler dans le plan. C'est pas des idées absolument délirantes, mais ça fonctionne. C'est bien, il y a au moins un petit point de vue, il y a un travail là-dedans.
Il a fait d'autres trucs, ce mec.
Le problème, alors moi je le connaissais pas, c'est son deuxième long métrage, je crois. Hein, mais là où moi j'ai un gros souci, mais c'est un souci, je dirais, de mon point de vue idéologique sur le cinéma, c'est que, j'ai deux soucis avec le film. Le premier, c'est que moi j'ai toujours un gros souci avec ces films qui se complaisent dans leur noirceur. Moi je trouve que c'est pas réaliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est irrité par les gags forcés des Marvel, hein, mais je trouve que pour me faire ressentir l'humanité des personnages, j'ai besoin pas forcément d'un peu de folie mais d'un peu de décalage. Ça permet de les rendre un peu moins écrits, peut-être un peu moins premier de la classe. Et ça les rend un peu plus humains. Et je trouve que le drame et la tragédie que tu vas essayer de dépeindre est d'autant plus touchante quand tout à coup, par exemple, ces personnages t'ont fait rire. Donc, comme At Night, ça c'est clair, on va pas te faire rire avec.
C'est une grande qualité du cinéma coréen, par exemple.
C'est vrai, mais dans les meilleurs films coréens, exactement, dans les meilleurs films,
dans les pires, dans les bons films, voilà.
Exactement, mais parce que
genre un petit moment de sourire.
Toute notre vie à nous tous, c'est comme ça. T'as toujours un moment qui est
totalement. Non, moi c'est pas drôle du tout.
Totalement absurde, mais si, exactement. Toi t'es très rigolo, David. Et puis non, puis il y a toujours un moment où tu vas, par exemple, tu vas rigoler devant la situation la plus improbable et peut-être la plus dramatique possible. Bon, donc moi j'ai un problème avec ça. Je trouve que c'est un film un peu.
Surtout que c'est une approche cinématographique. En fait, t'as l'impression j'ai pas vu le film, mais qui est dicté par le fait que, attention, les films d'horreur dans les années 80-90, c'était de la gaudriole, c'était du Freddy ou Krueger ou des trucs comme ça, et du coup, en fait, t'as l'impression qu'il faut impérativement ramener à l'attention, là, c'est sérieux, c'est noir, c'est...
Le problème, et ça, c'est là où mon problème idéologique par rapport au cinéma se pose, par rapport à un film comme It Comes at Night, c'est que dans La Nuit des Morts Vivants, parce que je pense que tu peux facilement relier It Comes at Night à La Nuit des Morts Vivants de Romero. Alors d'accord, il y a tout le sous-texte politique, ce que signifie le film quand il sort à l'époque aux États-Unis, ce qu'il va générer, ce qu'il dit sur la société américaine, etc.
Mais c'est un film de zombie,
voilà, ce qui a rendu le film immortel, ce qu'il fait traverser le temps, c'est vers Coming at You, c'est le fait que les zombies arrivent, marchent très très doucement, c'est la gamine qui se transforme en zombie, etc. Si tu enlèves tout ça, est-ce que le film a la même puissance? Est-ce qu'il va traverser les époques de la même façon? Je crois pas. It Comes at Night, c'est un film qui se débarrasse de tout ça. J'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un, ce réalisateur, qui a quelque chose à dire, qui n'est pas transcendant, mais il a quand même quelque chose à dire, mais il ne vit pas vraiment son film de l'intérieur. C'est un bon film de premier de la classe, avec tout ce que ça a comme limitation. Et au final, moi, le gros problème que j'ai avec ce film quand j'en sors, c'est que je me dis, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça, en fait? C'est-à-dire, quel est mon plaisir à moi et quel est mon intérêt en tant que spectateur à aller m'infliger un truc pareil? Parce qu'il faut savoir que le film a aussi cette honnêteté-là d'être très radical et extrêmement noir, y compris dans la fin. Et il y a un truc qui m'a peut-être touché parce que, voilà, ma vie étant ce qu'elle est, je suis père de famille, tout ça, mais il y a... Et c'est dur. Et je sors de là, je dis, mais pourquoi je vais voir ça, en fait?
Pourquoi je m'inflige ça?
Mais oui, c'est ça, je suis j'aspire plus ou moins à être un épicurien. Voilà. Je vais au cinéma, moi, pour m'amuser. Si le mec, il me donne l'impression de me rendre un peu plus intelligent, qu'il me donne un point de vue sur ma vie, sur mon existence, un peu plus pointu, mais c'est super, tant mieux. Je suis prêt. J'ai lu les pensées de Pascal avec grand plaisir. mais il faut, enfin voilà, il faut quelque chose en plus.
C'est pas un peu coincé du cul, c'est alors,
ah mais complètement.
C'est ça.
Je pense que
comme dirait
Stéphane à propos d'un autre film, ça manque un petit peu d'un doigt dans le cul. Oui, c'est ça.
Le truc, c'est que rétention anale égale.
Je ne sais pas.
Voilà. Donc, non, c'est ce qu'il disait Ascension Anal tout à l'heure, c'est pour d'accord. ça.
Non, enfin voilà.
Et gars coincé du cul, voilà.
Encore une fois, ceci étant dit, il n'y a rien de déshonorant dans It Comes at Night, c'est un film qui est tout à fait, voilà. Il se peut que vous trouviez du plaisir dans un machin super anxiogène qui va vous désespérer de tout et du monde et de votre prochain. Allez-y, c'est bien joué, voilà.
En fait, c'est aussi un truc qui est un peu amorphe, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça parle de la vie, mais ça parle pas vraiment de la vie au final, parce qu'en gros, il n'y a pas d'autres éléments.
Ce serait amorphe si tu n'avais pas, par exemple, du tout d'empathie pour un personnage. Tu en as quand même un petit peu. Il y a notamment un personnage les personnages d'ado. Par exemple, il est assez touchant. Il fonctionne bien, malgré tout ce que j'ai dit sur le manque d'humour et d'absurdité. Le manque d'humour et d'absurdité, ce n'est pas pour le manque d'empathie avec les personnages. C'est que je pense que, tel que je vois la vie et je la perçois, c'est plus réaliste, en fait. Ça fonctionne mieux. Et je pense que l'émotion est encore plus décuplée, en fait, à partir de là, quoi. Je pense que ça aurait pu être un film assez bouleversant. Ça m'a fait penser, je terminerai là-dessus.
Bouleversifiant.
Voilà. Ça m'a fait penser, je terminerai donc là-dessus. Il y a un autre film anglais qui va sortir à la fin du mois. On reviendra peut-être dessus dans Capture, qui s'appelle The Girl with All the Gifts. Qui fait un peu penser à ça, sur certains points. Et c'est marrant parce que c'est pas un film parfait, The Girl with All the Gifts, mais c'est un peu
D'un bouquin.
Ouais, le pendant extrême, en fait, de It Comes at Night. C'est-à-dire que c'est un film qui, pour le coup, va un peu trop dans le genre, de façon démonstrative, qui se plante un peu quand il y va, quoi. Mais qui, du coup, a des vrais moments d'émotion assez intéressants, y compris des trucs avec les gamins, etc. Voilà.
Bon,
voilà, bah, chers amis.
Écoute, ça reste quand même intrigant, hein. Puis c'est toujours
et
chouette.
Toi, t'aimes bien les trucs tout tristes, tout gris comme ça.
Ouais, non, c'est ma passion. Surtout, je trouve que les mecs comme Emmerich ou Ron Howard arrivent parfaitement à gérer ce genre de cinéma. Alors,
il y a très peu de musique en plus pour toi dans It Comes at Night. Ouais.
Alors, passons passons à la plage, allons au soleil et allons nous amuser.
On va rigoler.
On va rigoler, je pense, avec toutes ces femmes et tous ces hommes qui sauvent des gens au bord de l'eau avec Baywatch. C'est parti.
Et maintenant, il fait chaud. Il fait beau. C'est la plage. Stéphane est en maillot de bain rouge. Il se roule sur le sable. Au ralenti, bien sûr. Tout est au ralenti dans ce générique de Alerta Malibu, la série.
dont ils ont fait un magnifique film, Stéphane.
Une adaptation cinématographique.
Tout à fait, qui sort là sur nos écrans, qui est sorti même.
Mais c'est marrant parce que tu fais... Non, c'est pas sorti encore.
Ça sort la semaine prochaine.
Ça sort la semaine prochaine,
tout à fait.
C'est marrant parce que tu fais une blague, on disait tout est ralenti, et c'est leur plus grosse blague en fait dans le film. Leur blague, c'est de dire, mais vous êtes d'accord, elle marche au ralenti. On est d'accord, c'est ce que vous voyez. Oui, pourquoi elle marche au ralenti? Ça, c'est leur grand gag en fait, se foutre de la gueule d'Alerte à Malibu, c'est jouer sur le ralenti de Pamela Anderson.
Est-ce que David est dans le film?
Bien sûr, David est dans le film. Attends, David est dans le film des autres, il est dans SpongeBob et ce genre de conneries, donc il peut bien être
dans son adaptation.
Je dis ce genre de conneries, mais j'aime beaucoup le film SpongeBob. Mais écoute, par où commencer sur Alerte à Malibu?
Oui, parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer cette merveille.
Et c'est un peu le problème du film, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas par où quel bout commencer en fait. Et la raison d'exister de ce film, je pense qu'elle est dans la réussite commerciale de 21 Jump Street au cinéma. C'est-à-dire,
il y a eu une réussite commerciale de ça?
Ah, ça a été un énorme carton, 21 Jump Street. Et c'est une adaptation hyper, entre guillemets, irrévérencieuse de 21 Jump Street, parce que c'était une relecture totalement loufoque et méta du pitch de 21 Jump Street. Là, c'est un peu la même logique. On va tirer d'une série, en fait, qui était une série... légère et un peu policière, on va dire. Et ils ont décidé d'en faire une espèce de comédie grasse avec The Rock.
Bon, The Rock, il a le vent en poupe, hein, déjà depuis un moment, mais ça marche plutôt pas mal pour lui.
Ouais, ça marche plutôt pas mal. Après, le truc, c'est qu'on peut pas le foutre partout non plus, quoi. Je veux dire, le mec passe pas inaperçu, c'est quand même pas le même physique que David Hasselhoff à la base.
Mais ils ont pris Zac Efron pour le beau Californien.
Voilà, mais alors le truc, c'est que c'est le beau Californien dont on se fout de la gueule. C'est-à-dire que c'est pour utiliser un terme, une expression américaine, le douchebag. Voilà, le connard, en fait, qui est censé être le beau gosse, qui est censé être un peu un but de lui-même, et tout ça, etc., etc. Et du coup, tous les personnages du film, hein, que ce soit les personnages de Dwayne Johnson, qui joue le rôle de David Hasselhoff,
ouais.
Mitch Buchanan, donc, le
garde-plage. Ouais.
Voilà, c'est ça. Il se fout de sa gueule. CJ, qui est le personnage à la base de Pamela Anderson, qui est interprété par une très jolie blonde.
Poitrine.
Surtout, les fesses. Apparemment, ils ont misé sur les fesses. En tout cas, c'est ce qu'ils filment dans le film, plus que la forte poitrine. C'est pareil, se foutre de la gueule du personnage de Zac Efron. Et étrangement, en fait, la dérision ne fonctionne pas vraiment.
Il y a une brune aussi, apparemment.
Oui, t'as Alexandra Daddario qui est la jeune brune qui était qui a fait beaucoup fureur dans True Detective. Elle avait notamment effectivement une ou deux scènes nues qui a un peu marqué les esprits, qui ont un peu marqué les esprits. Non, le truc avec Baywatch, voilà, c'est qu'en fait ils ont pris une série dont le nom est populaire, dont la popularité est basée sur... Enfin, moi je suis pas un grand spécialiste de Baywatch, parce que j'en ai jamais vraiment vu un entier.
Moi non plus.
Voilà, donc mais de l'extérieur en tout cas, c'est quand même l'air d'être une grosse série de beaufs. Et vendu pour les beaufs avec vous allez avoir la plage californienne, les bimbos, un petit peu d'action, un petit peu de fesses, vite fait comme ça. Voilà, donc j'ai l'impression que c'était ça, Baywatch, mais peut-être que les fans me contrediront. Et à tes souhaits.
Merci,
David.
Excusez-moi. Voilà.
Et en fait, j'ai l'impression que du coup, là, l'idée, c'est effectivement d'en faire une espèce de comédie, presque une parodie, on va dire, entre guillemets, de Baywatch, mais ça va pas complètement jusqu'au bout parce que. Le truc, c'est que déjà, t'as The Rock, donc qui dit The Rock dit quand même scène d'action un peu musclée. Et lui, en fait, il a cet apparat de héros quasi intouchable, en fait. Et tu vois que même s'il pousse un tout petit peu plus loin que la dérision que sur un Fast and Furious, bah, ça reste quand même The Rock avec comment dire, ses gros muscles et ses 10 kilos dans le cou. Et le truc, c'est que pour le reste du film, ce qui est problématique, c'est que l'humour, en fait, c'est de l'humour gras, tu vois, de mecs qui vomissent parce qu'ils se sont torchés la gueule ou ce genre de choses, quoi. Donc
c'est l'humour pour les jeunes.
Ouais, le problème, en fait, c'est que je pense que c'est là où le film se trompe de cible, justement, exactement. C'est-à-dire que le truc, c'est que dans le film, il y a par exemple un personnage de geek. Alors, on me dira peut-être qu'il était dans la série, on va savoir.
Alors, je sais pas, parce que, alors, ouais. La série, elle date de 89. Avril 89, c'est pas tout jeune, hein, quand
non,
même.
Non.
Il y a eu 243 épisodes, quand même.
11 saisons, donc c'est une série qui a
ouais,
qui
puis il y a eu Baywatch Night, je crois, il y a un truc comme ça, il y a eu les pornos, les adaptations porno, parce que ça a déjà été adapté au cinéma, faut le dire, hein, messieurs, dames. Voilà. Non, le truc, c'est que, voilà, le truc avec Baywatch, c'est que c'est pour moi, je pense, hein, c'est une série un peu, comment dire, un peu bas de plafond pour faire rêver le, comment dire...
la ménagère de voilà, moins de 50
ouais, ans. un peu, j'ai envie de dire, un peu cynique en fait dans cette approche-là, et en faire une espèce de comédie pour les jeunes, c'est un peu étonnant parce que justement, j'ai pas l'impression que c'était déjà le public à l'époque, et j'ai pas l'impression que ce soit le public aujourd'hui. Alors que par exemple dans 21 Jump Street, c'était le public de la série, c'était les Jones. Et le truc en fait, c'est que là où ils se trompent aussi, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un espèce de personnage de geek en fait qui est pas le héros principal, hein, parce que t'as quand même effectivement Dwayne Johnson et puis Zac Efron à côté, et puis t'as aussi les nanas, hein, Alexandra Daddario et la celle qui joue CJ qui est jouée par Kelly Rohrbach. Et en fait le truc, c'est que ce geek là, bah en fait on a l'impression qu'on lui a réservé une espèce de place pour que le public qui va voir les films de super-héros en fait se reconnaisse et la chance en fait de montrer que bah lui aussi il peut se tirer, enfin il peut tomber amoureux et elles peuvent tomber amoureuses de lui en fait, les bimbos quoi, tu vois.
Et il a du ventre.
Voilà, c'est ça. Donc, mais oui, mais c'est tout le principe du personnage. Donc c'est assez étonnant en fait cette approche, voilà. Et après le deuxième truc en fait, c'est que bah c'est Baywatch vu par un simili Michael Bay en fait. C'est-à-dire que le réalisateur Seth Gordon, c'est pas du tout ça à la base, hein. C'est déjà un réalisateur qui vient du documentaire et qui a fait, moi je trouve, un excellent documentaire.
Ce qu'il faut savoir, cher ami, c'est que la série d'origine, elle a été produite par Michael Burke, qui n'a rien à voir avec Michael Bay, mais je trouvais que le nom était rigolo.
Et Mike, c'est pas Michael Baywatch non plus, et voilà. Bref. Donc, je te fais les vannes, je te laisse faire les vannes.
Bah oui, parce que, autant que ce soit drôle, parce que, le film est quand même triste à pleurer.
Bah, le film, ouais, c'est un gros problème, mais le truc, donc voilà, c'est leur approche, en fait, c'est de faire une espèce de film à la sous Michael Bay, c'est-à-dire, avec une musique, tonitruante à la Steve Jablonski, ouais, tu vois,
à la Zimmer Company, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est Christopher Lennert qu'on aime bien, hein,
à la base, ouais,
qui a fait ça. Et puis qu'il fasse creuser, voilà, sa piscine.
Et le réalisateur, c'est Seth Gordon, qui a absolument rien à voir à la base. C'est un mec qui vient du documentaire. Il est ce que je te disais. Il a fait King of Kong. Je sais pas si t'as vu ce documentaire-là, qui est un excellent documentaire en fait sur les champions de Donkey Kong du début des années 80. C'est des mecs qu'il a retrouvé 25 ans après. Et c'est vraiment un excellent documentaire en fait, un espèce de films sur les outsiders, tu vois. Et je pense que lui, c'est un geek, et c'est pour ça aussi, à mon avis, que c'est un peu dedans, cet aspect dans son film. Et puis ensuite, il a fait quelques...
Comment tuer son boss.
Voilà, il a fait Comment tuer son boss,
c'était
qui est quand même...
pas mal.
Ouais, c'est quand même une comédie un peu beauf aussi. Arnaque à la carte avec Melissa McCarthy Jason Bateman, qui était déjà effectivement dans Comment tuer son boss, quoi. Et voilà, en fait, c'est un réalisateur un peu débarqué, moi j'ai l'impression, sur ce genre de truc, et qui à qui on demande en fait de faire un peu comme Peter Berg sur Battleship, ce genre de choses en fait, faire du Michael Bay mais dans un film beaucoup plus léger, beaucoup plus voilà. Donc bah qu'est-ce qu'il en reste en fait, le truc c'est qu'il en reste éventuellement The Rock, qui a toujours un peu le sens de la répartie, même si moi je trouve qu'il est pas vraiment à sa place là-dedans. Il en reste des effets spéciaux sacrément ratés, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu, on a pas beaucoup, hein, des grosses scènes comme ça, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu des fonds verts aussi dégueulasses. Et ça, je pense que comme c'est tourné à Malibu sur la plage, dès que t'as un fond vert, ça se voit tout de suite, et c'est dès qu'il tourne dans une cuve, ça se voit tout de suite, et c'est horrible. Il y a une scène avec un bateau qui prend feu là, qui est juste, mais en termes d'effets spéciaux, t'as l'impression de revenir en 2002, quoi, ou en 98 sur les débuts, les prémices du numérique, quoi. Et voilà, quoi. Donc j'ai envie de te dire que c'est un peu normal, un, que le film se plante aux États-Unis, qui ne soulève pas beaucoup d'intérêt. Et puis que oui, le problème, tu disais, voilà, le Rock, il est à The Vent en poupe, mais on le voit un peu partout aussi en ce moment, quoi. C'est-à-dire que il a Fast and Furious 8, il a d'autres films qui arrivent, enfin donc voilà, c'est
on manque pas de The Rock.
Voilà, c'est un truc, c'est qu'en
fait,
et
il était dans la voix dans Vaiana, enfin il incarnait le personnage principal avec la petite jeune fille là dans le dessin animé, et on le reconnaît bien, enfin c'est lui, quoi.
Non mais c'est un mec qu'on voit en permanence. Il a le remake de Jumanji qui arrive.
C'est vrai, ça. Voilà, ça peut être sympa pour le coup.
je sais pas, enfin moi tu sais, Joe Andy déjà, j'étais déjà trop vieux quoi. Il a la série télé Ballers, il a tout ça. Enfin donc le truc c'est que The Rock il est un peu partout et forcément bah j'ai l'impression qu'au bout d'un moment il choisit pas trop ses projets. Enfin, on a l'impression que les projets sont taillés autour de lui et à un moment donné, il faut que les projets ils collent quand même à ce qu'il est censé être. Et moi, je pense, hein, y a d'ailleurs un gag là-dessus dans le film, je pense qu'il n'est pas tout à fait taillé pour être,
sauveteur.
Bah, pour être le personnage, plage, pour être en gros le personnage de David Hasselhoff dans la série, quoi. Donc,
on fait quoi ? On n'y va pas alors ? On va
ah
pas...
bah j'ai envie de dire même pour se rafraîchir, c'est pas tout à fait rafraîchissant. Tu sais, ça dure 2 heures aussi. Hein, c'est
ah
ça,
ouais,
c'est un autre problème aussi quoi. Donc je pense que c'est à la base en fait c'est un projet qui devait pas être très intéressant et surtout qui a pas été très bien pensé en fait par le studio, qui s'est pas forcément posé les bonnes questions. Ils sont juste dit ah on a The Rock, on peut en faire un film d'action un peu plus une comédie un peu plus action que d'habitude dans ce genre de truc Et en même temps, en fait, tout en essayant de ratisser large pour les jeunes...
Tu as vu l'affiche avec le pénis sur la table ? Sur
non,
la plage, pardon ?
Non.
Ils ont fait une affiche où, tu vois, ils ont l'espèce de bouée en forme de oblongue. Mmh. Donc, ils l'ont planté. Ils ont mis 2 gros ballons sur lesquels un a marqué Dwayne Johnson et l'autre Zac Efron, évidemment... le tout regroupé sur la plage,
ça
fait un gros pénis.
Parce qu'ils parlent de leurs couilles à un moment donné pendant 2-3 trucs.
Voilà.
Donc voilà, c'est encore une fois, je veux dire, les fans de The Rock pourront peut-être y trouver leur compte. Les fans d'Alerte à Malibu, j'ai du mal à y croire. S'il y en a en tout cas.
Il y en avait en tout cas, parce qu'il y avait 1 milliard de téléspectateurs par semaine.
Ouais, mais
Alerte
tu sais, en fait, le truc c'est j'ai tendance un peu à me foutre un peu de la gueule d'Alerte à Malibu, mais il y a au moins un truc que tu peux pas enlever à la série, c'est que ça a tapé quelque chose, ça a tapé dans collective sur quelque chose, et notamment la beauté californienne, alors certes bimbo et tout ce que tu veux, tu vois, mais en matière iconique, en fait, Pamela Anderson, elle se posait là, quoi, tu vois, je veux dire, en tout cas, on pouvait pas lui enlever un certain charisme, un certain truc, même si c'était effectivement un petit peu, comment dire, enfin, c'était la pin-up, quoi, tu vois, je veux dire, elle avait remis la pin-up au goût du jour, et c'était plutôt, enfin, moi, personnellement, ça a peut-être passé pour quelque chose d'un peu sexiste aujourd'hui, mais moi je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre de choses aussi, quoi, ce genre d'image sexy, quoi, tu vois. Mais le truc c'est que ça c'est un film, c'est pas le film pareil se détache un peu de ça aussi, c'est-à-dire que il tourne un peu en dérision le fait que les maillots rentrent dans les fesses, ce genre de choses. Bon, moi ça pourquoi pas, mais enfin ils en profitent quand même, donc c'est un peu, je te dis, c'est un film qui est un peu étrange là de ce point de vue là, quoi. Donc moi je recommande pas vraiment.
Ouais. On s'en serait un peu douté, hein.
Oui, c'est pas comme si.
Non, mais,
c'est...
c'est le non, mec... mais tu t'attendais à une surprise.
Tu sais, t'as toujours envie que ça soit réussi, mais c'est vrai qu'après ce genre d'approche, il y a un truc d'un peu malhonnête là-dedans, parce que les mecs, en fait, capitalisent sur un titre qui a pas vraiment besoin d'être mis au goût du jour, qui est pas vraiment intéressant, qui effectivement est marqué très connoté années 90. Et qui finalement aurait dû disparaître.
Et oui, donc ça aurait dû rester cette série qui nous a laissé de si bons souvenirs dans les années 90 avec cette musique
pour ceux qui l'ont vu, qui ont l'âge. Ouais, ouais.
Cette musique qui nous est restée, ce rock folk si de telle qualité, d'une telle qualité.
Mais voilà, moi j'aurais préféré que ce soit plus un vrai film beauf, on va dire, en tout cas assumé, tu vois, comme tel, que un espèce de truc un peu
comme
geek.
Comme Duke of Hazard.
Ouais, voilà, enfin, même si ça c'est pareil, c'était un petit peu sophistiqué par rapport à ce que c'est censé vraiment être Duke of Hazard, mais les chéris, fais-moi peur. Mais voilà, j'aurais préféré que ça soit ça, qu'au moins les mecs soient vraiment dans le. Comment dire. Dans ce qu'est la série, quoi.
Dans
voilà,
le trip,
quoi.
Dans
voilà.
Le trip. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là sur Alerte à Malibu. Je trouve que tu en as déjà dit beaucoup trop.
Beaucoup trop, on a passé trop de temps là-dessus.
Et on va continuer avec les autres réjouissances. Julien, je me retourne à nouveau vers toi.
Alors, John tourne-toi
Wick,
vers moi.
John Wick 2.
Voilà.
De Chad.
Chapitre
2 de Chad Stahelski.
Alors attends, chapitre 2, parce que le chapitre 1, c'était quoi ? C'est 12 pages, quoi. Le scénar du premier, quoi.
Ça sort en Blu-ray et en DVD ce truc-là.
Avec plein de bonus. Alors je m'excuse parce que je sais que les gens chez Metro qui sont occupés de l'édition Blu-ray essayent vraiment de faire les choses bien et c'est une intention qu'il faut saluer aujourd'hui parce que le physique est en train de disparaître. C'est ce qui est quand même assez triste parce que il y a pas de travail éditorial sur les choses qui sortent en dématérialisé. Eux, ils continuent à croire en ça, ils continuent à travailler sur le dématérialisé. Je sais qu'il y a en plus des bonus exclusifs à l'édition française. Donc, mais je m'excuse auprès d'eux, j'ai pas eu le temps de voir les bonus. Les bonus, j'en suis vraiment désolé. Voilà, mais ça a l'air très copieux. Voilà.
D'accord.
C'est surtout qu'on traite le film parce que on l'avait pas traité à l'époque de la sortie. Voilà.
Alors, il y a plusieurs. Alors, puisqu'on parle de Blu-ray DVD, il y a plusieurs coffrets qui sortent. John Wick, il y a un coffret d'ailleurs chez Metro, John Wick 1 et 2 en Blu-ray qui est assez joli. Il y a donc cette édition collector du 2. Il y a pas mal de trucs. Je me demande s'il n'y a pas un steelbook aussi. Bref.
Ah, c'est une grosse sortie hein, pour
c'est
eux
une
parce
grosse
que,
sortie, ouais.
Parce
ouais,
que
ouais,
c'est quand même un gros
festin.
Je suis pas
sûr que le 2 est fonctionnel.
Ah si si, il a même mieux marché que le premier.
Ah ouais, d'accord.
Ça,
okay,
hein.
Ouais.
Alors en France,
mais
peut-être pas,
film.
Je sais pas, mais aux États-Unis, oui.
Le premier est un film qui
un steelbook collector, ouais.
Qui est apprécié, hein, pas autour de cette table forcément, mais c'est un film qui est apprécié. Je pense que c'est un film qui comble un manque. Finalement,
ah bon
dans le cinéma d'action. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas un PG-13. C'est un vrai film aussi de malgré tout de cascadeur pour le pire et pour le meilleur.
Il y a un truc qui parle pour toi, Julien, c'est que si tu regardes les critiques des gens qui l'ont vu
sur
Amazon,
mais je parle de ça, je parle pas de vous. Hein.
Ouais, non, mais bien sûr, elles sont dithyrambiques. Hein. C'est étonnant parce que souvent,
Moi, j'ai pas vu John Wick 2. Je vais en parler, mais juste pour résumer un peu la logique de John Wick, c'est Keanu Reeves en fait qui interprète un tueur à gage en fait qui est à la retraite, qui était tombé amoureux de sa femme, qui s'est marié et en fait qui perd sa femme, elle est morte et en fait elle lui lègue un chien et une voiture en fait qui sont peut-être les dernières choses qui restent d'elle à part un film sur iPhone qui est le même en fait. Il y a une espèce de flashback étrange en fait qui a l'impression qu'ils se sont filmés eux-mêmes en train de se balader par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un flashback très très bizarre dans son iPhone qui se remet en boucle quand il pense à elle et on lui pique sa bagnole, on lui tue son chien et du coup en fait bah il veut se venger. Donc c'est vraiment le postulat de John Wick qui est ma foi assez absurde et je trouve hein, personnellement
c'est minimaliste en tout cas
ouais absurde aussi parce que c'est pas traité comme c'est pas traité avec sérieux, c'est quand même traité. Il y a les prémices qui me semble-t-il sont développées dans le 2 d'un monde souterrain en fait de tueurs en fait qui une mythologie en fait qui appartient à ça. Et effectivement, comme tu disais, c'est un film de cascadeurs qui sont les cascadeurs de Matrix et c'est comme ça qu'ils ont eu Keanu Reeves aussi pour le film. Et comme ça m'est arrivé de fréquenter certains cascadeurs sur des plateaux de films, j'ai l'impression que c'est un truc où c'est surtout des films de chorégraphie, c'est-à-dire qu'en gros les cascadeurs aiment beaucoup mettre des chorégraphies en scène et se plaignent souvent. J'ai l'impression que c'est généralement pas très bien filmé, ou en tout cas pas filmé comme ils le veulent. Or moi le souci que j'ai avec John Wick, c'est que certes il y a une logique de gunfight sympathique qui peut fonctionner sur un gunfight à un moment donné, mais qui est répété ad nauseum sur un film d'1h50, et surtout qui est représentatif. Moi, j'ai l'impression que le problème aujourd'hui, tu disais, ça comble éventuellement un vide, un film comme John Wick, c'est que j'ai l'impression qu'on parle d'un film d'action, à proprement parler, mais pas comme ceux avec lesquels j'ai pu, moi, grandir, c'est-à-dire des films où on n'hésitait pas à verser dans le vrai drame, et pas dans le truc un peu, Alors, et dans la caractérisation de personnages. Moi, j'ai grandi avec les films d'action des années 70 ou des années 80. J'ai grandi avec Steve McQueen, avec Mel Gibson, avec ces acteurs-là. Et le truc, en fait, c'est que t'avais une vraie écriture, une vraie caractérisation. Mel Gibson qui suicidaire dans L'Arme fatale, ce genre de choses, en fait. Et là, en gros, le mal à l'âme, on va dire, entre guillemets, de John Wick, c'est cristallisé dans un chien.
Ouais, mais bon, faut avouer que Keanu Reeves est un grand acteur. Alors...
C'est même pas le problème, c'est à la base il est pas aidé, moi je pense, sur un projet comme ça, et surtout en fait c'est complètement bazardé, et puis ça change de ton assez, de manière assez.
Alors c'est assez paradoxal, et le 2. Enfin, je trouve que le projet, le mec Chad Stahelski là, qui est le vrai réalisateur en fait, hein, en tout cas, il est en solo sur le 2. Je suis même pas sûr parce qu'il s'était co-signé. Il y avait un autre réalisateur sur le premier. Je sais même pas si l'autre réalisateur était crédité officiellement.
Il me semble que c'était en tant que réalisateur.
Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais enfin bon, bref. Et donc Chad Stahelski, il a. C'est un mec que je trouve assez paradoxal, et je trouve que le film lui ressemble assez. C'est-à-dire que c'est à la fois un film extrêmement humble, où le mec il va te dire non, mais moi je suis là juste pour faire de l'action, et je sais que le scénario il est limité, mais c'est juste un prétexte. Et en même temps, c'est un film extrêmement prétentieux où le mec il va te citer le Caravage dès qu'il fait une composition.
Quand même.
Voilà. Donc c'est un peu. Bon, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu particulier. Ça se ressent un petit peu dans le film. Donc, tout dépend de ce que tu peux et ce que tu veux retirer, en fait, de ça, surtout dans le 2. Ce qu'il faut savoir dans le 2, c'est que, conforté, j'imagine, par le succès plutôt surprise du premier film.
Critique surtout, hein, parce que c'était pas un très gros budget, mais ça a un peu marché.
Ouais.
Mais c'est surtout la critique en fait qui a été dithyrambique, hein, sur un film comme
oui,
ça.
Oui, oui, mais il n'empêche que le film est plutôt bien perçu, en tout cas.
Il a été rentable. Bien,
voilà.
Il a été rentable.
Ils ont poussé les potards un peu plus fort, ils ont un peu radicalisé le film. Et le film d'ailleurs s'ouvre sur une note d'attention qui est vachement intéressante et qui est très claire. Il s'ouvre sur le mécano de la générale de Buster Keaton qui est diffusé, qui est projeté sur un immeuble de New York. Et aussitôt après, il y a une poursuite de voitures. Et moi, je vois ça, je me dis, ah bah c'est cool. C'est-à-dire que le mec, et quand tu l'interviews, Chatzelski, il en a conscience aussi, le mec, il sait d'où il vient, il sait vers quoi il va tendre. Et c'est-à-dire que lui, pour lui, son but sur John Wick 2, normalement, hein, c'est d'enchaîner en fait les prouesses, les trouvailles, les cascades, un peu d'ailleurs comme ce que faisait Buster Keaton dans certains de ses films. Donc avec pas beaucoup de caractérisation chez Keaton, il y a pas, voilà, Buster Keaton joue Buster Keaton en règle générale.
Mais moi, j'ai pas vu John Wick 2, donc la citation en soi, c'est une chose, mais j'ai l'impression quand même que citer Buster Keaton quand t'es un cascadeur, enfin, après Jackie Chan qui a repris ça pendant des années, c'est pas non plus hyper original.
Mais qui l'a fait ?
Jackie Chan.
D'accord, mais voilà.
Non, mais il n'y a pas pendant 40 ans, quoi.
Mais alors là où c'est paradoxal, et je parlais tout à l'heure de ce mélange entre humilité et folie des grandeurs, c'est que. Il y a cette note d'intention au début, et puis après, alors il te développe l'univers souterrain effectivement de John Wick 2 avec des trouvailles de temps en temps qui sont rigolotes, mais ça te rend aussi le film de temps en temps. Moi, je trouve qu'il y a des baisses de rythme énormes aussi du coup, parce que il va essayer de te développer ça et que c'est pas efficace et que il y a tout un caméo par exemple de Laurence Fishburne qui est nul. Je le trouve nul dans le film, mais épouvantable, et c'est laborieux.
Il l'invite
pas
à passer
fun.
Dans un monde parallèle, c'est ça?
C'est quasiment ça en fait. Mais
ah bah d'accord.
Généralement les caméos de Laurence Fishburne, c'est pas possible, hein. Dans Passengers, c'est pas possible. Ouais. Dans Predators, c'est pas possible. Donc voilà, enfin bref. Mais...
Alors moi, je trouve pas que le film soit déplaisant pour autant, parce que moi j'aime bien Keanu Reeves, je le trouve cool, il est sympa,
ouais,
surtout
moi quand
il
fait des trucs
comme ça, il est sympa et tout. Et puis de temps en temps, il y a un autre truc aussi dans John Wick 2, contrairement au premier, c'est que par exemple il y a plus de cascades automobiles. Et alors là, pour le coup, je les trouve vraiment satisfaisantes, notamment au début, il y en a une ou deux qui sont vraiment sympas, où il y a un rapport entre les mecs qui conduisent la caisse et puis les voitures avec 2-3, il y a peu de numérique en fait dans les John Wick, parce que encore une fois, le cascadeur
veut
filmer le truc et tout comme ça. Oui, oui, très bien. Mais là, il y en a un tout petit peu, en fait, dans certains plans de la cascade automobile, mais je trouve ça plutôt bien vu et c'est plutôt bien utilisé. Là où, moi, le film me pose plus problème, en dehors de ce côté un peu verbeux et de ces baisses de rythme qui sont vraiment irritantes, c'est qu'il y a des idées, des amorces, en tout cas, de scènes d'action qui sont enthousiasmantes, mais qui ne sont pas portées à terme. Et notamment, il y a un final, je vous l'annonce, mais je spoil rien, parce que ça...
Oh non,
rien.
Non, encore.
C'est pas un spoil d'histoire, mais de toute façon, l'histoire, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais il y a un final qui se passe dans une espèce d'installation d'art moderne, avec plein de miroirs, des escaliers qui montent, qui descendent, etc. En gros, une installation qui te fait perdre tes repères dans l'espace. Mmh. Et quand j'ai vu qu'il y avait un gunfight qui était installé là-dedans, même si ça arrivait au terme du film avec toutes les déceptions que j'avais déjà eues sur le film, je me suis dit « Oh putain, c'est cool, c'est une super idée !» Tu sais que tu vas pouvoir jouer avec les reflets, les mecs qui croient tirer dans l'autre, mais tu sais pas, tu crois que t'es en haut, mais en fait t'es en bas, etc. Il y a plein de choses à faire là-dessus, et c'est super pauvre en fait. C'est pas du tout à la hauteur
c'est
de ce
exploité.
Que tu pouvais de ce que tu pouvais espérer. Donc, en gros, si vous avez pas du tout aimé le premier John Wick, vous aimerez pas beaucoup John Wick 2, c'est clair et net. Mais il y a peut-être de temps en temps des scènes ou des amorces de scènes qui pourront vous satisfaire. Si vous avez trouvé votre compte sur le premier John Wick, je pense que ce serait bête de pas voir le deuxième, quoi, parce qu'il y a il pousse un peu plus les potards, il y a du boulot quand même malgré tout, et voilà, c'est loin d'être un grand film. J'ai l'impression que je l'ai vachement défendu en fait.
Alors, personnellement je
trouve pas le film irritant. Je trouve qu'en plus le cinéma d'action actuel est est tellement dans la panade, parce que les blockbusters eux-mêmes sont vraiment dans une panade noire là, ces jours-ci, que finalement c'est dans des productions plus moyennes comme ça que tu peux trouver de temps en temps un peu de quoi satisfaire. Hein.
Tu parlais tout à l'heure du premier film en fait, donc effectivement apparemment c'était David Leitch qui est pas crédité,
mais qui réalise Atomic Blonde, c'est lui. Hein. Non.
Qui réalise Atomic Blonde et qui surtout va réaliser la suite de Deadpool.
Ah ouais.
Donc c'est lui qui remplace. J'ai oublié son nom, le réalisateur du premier film.
Le président de Blur Studio, dont le nom m'échappe aussi.
Mais voilà, et ce qui est étonnant, puisque apparemment, effectivement, s'il n'est pas officiellement crédité sur le premier John Wick, c'est étonnant qu'il ait eu le poste comme ça. Bon, tu me diras, ils ont peut-être vu Atomic Blonde, mais c'est pareil, Atomic Blonde, ça a quand même l'air d'être un sous-John Wick.
Tim Miller,
voilà, merci. Ouais. Atomic Blonde qui sort dans cet été, c'est un film avec d'espionnage qui se situe dans les années 80, pour le coup.
Je trouve que la bande annonce fait beaucoup moins envie que celle de.
Durant la guerre froide. C'est pas très ambitieux. Et c'est avec Charlize Theron qui s'est redécouverte une carrière d'action après Mad Max Fury Road. Voilà. Et malheureusement, elle n'est pas utilisée, j'ai l'impression. En tout cas, dans Fast and Furious 8, elle n'est pas utilisée au même niveau de charisme. Donc voilà. Mais bon, écoute, de toute façon, moi, je jetterai un œil sur John Wick 2 parce qu'effectivement.
Tu aussi, veux m'engueuler après.
Ouais, moi aussi, j'aime bien. Non, mais moi, j'aime bien, comment dire. Keanu Reeves aussi, quoi.
Ouais, ça aurait été réalisé. J'aime bien les gunfights. Walter Hill, ça aurait été mieux, mais bon.
Ben, non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que, voilà, on parlait de Walter Hill dans une autre émission précédente, mais c'est ça, les films d'action des années 80-90, c'était des films qui me semblaient plus modestes dans leur approche, mais plus, comment dire, qui n'hésitaient pas à avoir une approche dramatique aussi au sein des personnages, de la caractérisation, alors que là, j'ai vraiment l'impression que dans ces films-là, on leur demande de plus du tout faire ça, en fait, parce que si c'est un film d'action, ça ne peut pas être un drame en même temps aussi. Die Hard, c'est tout ça en même temps, en fait. Le truc, c'est
Là, tu prends un peu le haut du panier.
Non, mais
là.
Même, tu vois, L'Arme Fatale, qui n'est pas, je trouve, le plus grand film d'action de l'histoire du cinéma, hein, parce qu'il y a des gros problèmes de mise en scène et tout. C'était déjà Pépé Donner à l'époque qui était déjà un peu. Voilà. T'as quand même un super scénar, t'as quand même un super acteur dans le rôle.
Bah, deux, même.
Et, ouais, et non, mais pour prendre un personnage hyper, à travailler et habiter. Bah voilà, John Wick qui est censé avoir les mêmes traumas, hein, parce qu'il a perdu sa femme aussi, comme Martin Riggs.
Mais c'est un film postmoderne.
Voilà, mais c'est ça le problème. C'est ce que je reproche aussi. C'est pas seulement au film, c'est que on les monte en épingle et un film comme John Wick qui se retrouvait
un film de son époque.
Voilà, un film qui se retrouvait deux mois avant sa sortie partout dans le monde à 100% sur Rotten Tomatoes. Alors certes, c'est pas une référence absolue, tu vois. C'est quand même étonnant en fait que personne se remette ça en question et dise ok, c'est juste une série B d'action avec une ou deux chorégraphies étonnantes qu'on n'a pas vues depuis un moment, et voilà. Mais effectivement, c'est des films de cascadeurs, c'est pas des films de réalisateurs, c'est pas des films de conteurs, on va dire, à proprement parler, je pense. Bon. Enfin, en tout cas, le premier, j'ai pas vu le 2.
Bah écoute, on va le regarder. Il sort là, le 22, en Blu-ray et en DVD, avec des belles éditions. Faites-vous plaisir, ça vaut pas cher. Hein, et c'est toujours du bonheur, les éditions Blu-ray. Et vous avez raison, hein, vous avez raison de défendre... défendre le support physique, j'en suis aussi un fervent défenseur et acheteur surtout.
Moi j'ai plus de place chez moi.
Ouais, ma femme.
Profite-en, ça va pas durer. Hein.
Ouais, mais moi monsieur, je ne le reçois pas en service de presse, cher ami. Je paye mes
billets. Tu sais qu'il n'y a plus de service de presse hein, quasiment.
Ah, merde. Dommage. Je voulais m'y mettre.
Il faut être blogueur, les mecs.
Faut être blogueur, c'est ça. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un gros Capture Mag, ça fait un moment, hein.
J'ai été très étonné de ton avis sur Baywatch, hein. Je m'attendais pas.
Je m'attendais pas à tant d'enthousiasme, mais bon.
Mais c'est The Rock, qu'est-ce que tu veux faire?
C'est
l'effet The Rock, tu vois,
c'est l'effet The Rock.
En fait, on aurait dû faire un épisode spécial sur The Rock, voilà.
C'est
merde,
ça.
Putain.
On a raté une occasion, ça reviendra parce qu'il a pas fini sa carrière, le bonhomme.
Non, je crois pas, non. Même si Baywatch, donc, ne marche pas, quoi. Voilà.
Oui, bon, c'est
pas grave. On verra, peut-être un hebdo, peut-être un bonus, peut-être un.
On verra, David. Moi, voilà.
Verra.
Mais je dis Capture Mag, je dis CaptureMag.net, je dis Twitter, Facebook, je dis laissez-nous des étoiles.
5 étoiles,
exactement.
Minimum,
sinon on ne sera pas content et on ne reviendra plus. Voilà. Eh ben, en attendant, bonsoir les amis.
Bonsoir.
Merci Julien, merci
Stéphane.
Non,
merci à toi, écoute.
Merci
voyons.
David, merci. Merci à toi, merci à Ron Howard.
Merci à Ron.
Merci au micro.
C'est qu'il a un Twitter, Ron Howard. Je vais lui dire que tu l'aimes beaucoup. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.